Vous écoutez, on lit pour vous.
Le risque d'être trop performante. Un texte de Maude Goyer, paru le 18 juin 2024 dans La Presse. Performante, expérimentée, déterminée et épanouie, Virginie Louot se sentait sur son X lorsque, sans crier gare, son poste de vice-présidente dans une grande firme a été supprimé. Elle s'est repassé le scénario maintes fois. Elle a subi le syndrome du grand coquelicot. Reconnue par la recherche et la littérature scientifique, le syndrome du grand coquelicot fait référence à la plante dont la fleur, très haute, fait de l'ombre aux autres autour, et dont on coupe la tête pour la faire rentrer dans les rangs. On peut faire le parallèle dans le milieu du travail. Quand tu brilles trop, on t'intimide et on minimise tes résultats, raconte Virginie Louot. Cela a un impact énorme sur l'estime de soi. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est le cousin du syndrome de l'imposteur, beaucoup plus connu, qui fait référence à la confiance en soi. La Montréalaise de 50 ans, titulaire d'un MBA et mère de deux adolescentes, vient d'écrire et d'auto-éditer un livre sur le sujet « Aussi haut qu'un grand coquelicot ». C'est en répondant à un vaste sondage mené au début de 2023 par Women of Influence Plus auprès de 4700 femmes dans 103 pays que Mme Louot prend conscience qu'elle a vécu les contre-coups du syndrome du grand coquelicot. Tabou. Lorsqu'on lui annonce qu'elle perd son emploi, en novembre 2023, elle passe du choc à la tristesse, puis à la colère. « J'ai pris quelques mois pour prendre soin de moi », confie-t-elle. « Je refuse de me placer dans une position de victime. » Je préfère être dans l'action. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre. En 2 mois, elle pond son manuscrit dans lequel elle raconte son parcours, ses constats et ses pistes de réflexion. En se basant sur des études et des recherches sur le syndrome du grand coquelicot, elle décortique pourquoi cela fait si mal aux femmes et pourquoi il faut en parler. Il y a peu d'ouvrages qui existent sur le sujet, indique-t-elle. « Je ne trouve rien fait ici, en français. Il y a encore un tabou autour de ce syndrome, car c'est lié à la performance, et ça peut être subtil. On te rabaisse, on te dénigre, on critique tes résultats, on ne t'invite pas à une réunion, on s'approprie tes réussites. » Falaise de verre. Le fait que les hautes directions soient principalement occupée par des hommes, ou l'effet « boys club », explique en partie le syndrome du grand coquelicot, croit Mme Louot. Elle parle non pas du plafond de verre, mais de la falaise de verre. Quand un poste ou un projet présente une grande difficulté, que c'est pratiquement voué à l'échec et que personne ne veut y aller, la femme qui veut accéder à ce poste et grimper dans la hiérarchie va y aller, dit-elle. Or, ses chances de succès sont minces. Près de 90 % des femmes interrogées dans le cadre de l'étude réalisée par Women of Influence Plus déclarent avoir subi une ou plusieurs répercussions liées au syndrome du grand coquelicot, comme être attaqué, irrité, détesté ou critiqué. L'étude révèle également que 77 % ont vu leur réalisation minimisée et 72 % se sont fait exclure de réunions ou de discussions. Dénigrement et micro-agression. Le syndrome du grand coquelicot se décline aussi d'autres façons, décrite par les femmes sondées. Elle nomme le fait d'être réduite au silence, d'être dénigrée, de recevoir des commentaires désobligeants, quant à leur ambition, par exemple, et d'être victimes de micro-agressions dans leur milieu de travail. L'autrice, Virginie Louot, espère que son livre va aider à identifier, déjouer et surmonter le syndrome du grand coquelicot. « Je souhaite sensibiliser pour prévenir », souligne-t-elle. « J'aimerais que la posture des ressources humaines change. » Oui, ce syndrome existe. Il faut changer les politiques pour remettre l'humain au cœur de l'entreprise. C'était « Le risque d'être trop performante », un texte de Maude Goyer, paru le 18 juin 2024 dans La Presse.
Que faire si vous êtes témoin d'une thérapie de conversion? Un texte d'Éducalois paru le 24 mai 2024 dans le magazine Fugue. Les thérapies de conversion sont criminelles au Canada depuis le 7 janvier 2022. Mais cela ne veut pas dire qu'elles ont cessé d'avoir lieu depuis cette date. Savez-vous c'est quoi une thérapie de conversion? Que pouvez-vous faire si vous la voyez ou en entendez parler? Voici comment dénoncer la situation, soutenir la personne ciblée et prendre soin de vous comme témoin. Les thérapies de conversion sont des interventions organisées qui visent à rendre l'orientation sexuelle d'une personne hétérosexuelle son identité de genre cisgenre ou son expression de genre conforme au sexe qui lui a été assigné à sa naissance. Réduire ou réprimer les attirances ou comportements non hétérosexuels d'une personne ou son expression de genre si elle n'est pas conforme au sexe qui lui a été assigné à la naissance. Réprimer l'identité de genre non cisgenre d'une personne. Est exclue toute intervention ayant pour but d'accompagner une personne dans l'exploration, le développement, l'acceptation ou l'affirmation de son orientation sexuelle, identité de genre ou expression de genre, quelle qu'elle soit. Dénoncer la situation à la police ou au directeur de la protection de la jeunesse. Les thérapies de conversion sont maintenant criminelles. Vous pouvez donc dénoncer cette situation à la police. La police pourrait enquêter sur les personnes qui pratiquent des thérapies de conversion ou qui incitent les autres à les suivre. Sachez que la personne qui subit une thérapie de conversion ne peut pas être accusée d'un crime, même si elle a consenti à cette thérapie ou l'a demandée. Toute personne peut dénoncer une situation à la police à tout moment. L'organisme Échec au crime vous offre même la possibilité de le faire de façon anonyme. Mais il n'y a pas d'obligation de le faire si vous n'êtes pas à l'aise ou préférez laisser ce choix à la personne qui s'est confiée à vous, par exemple. Si la thérapie de conversion concerne une personne mineure, vous pouvez aussi faire un signalement au directeur de la protection de la jeunesse, DPJ. Le DPJ pourrait enquêter et intervenir pour protéger une personne mineure si cette situation compromet sa sécurité ou son développement. Soutenir une personne ciblée par une thérapie de conversion. Vous pouvez jouer un rôle important dans le bien-être d'une personne qui a subi ou qui subit encore une thérapie de conversion. C'est l'un des constats d'une étude publiée en 2022 par des recherchistes en santé de quelques universités canadiennes, incluant l'Université de Montréal. Avant tout, vous pouvez accueillir la personne pour tout ce qu'elle est, lui offrir votre écoute et lui démontrer qu'elle peut être elle-même en votre compagnie. Ceci peut aider la personne à s'accepter comme elle est, à se sortir de sa thérapie de conversion si ce n'est pas déjà fait et à commencer sa guérison. Bénéficier du soutien et du modèle des personnes LGBTQ+, comme vous, peut aider la personne à visualiser son avenir en tant que personne LGBTQ+. C'est d'autant plus essentiel si la personne est rejetée par sa famille ou communauté d'origine quand elle quitte la thérapie de conversion. Vous pouvez informer cette personne qu'elle a plusieurs options pour aller plus loin si elle le souhaite. Des organismes comme Equijustice offrent de la médiation gratuite qui pourrait aider la personne à dialoguer avec sa famille d'origine ou des membres de sa communauté d'origine. Elle pourrait porter plainte à l'ordre professionnel de la personne responsable, si cette dernière est psychologue ou sexologue, par exemple. Elle pourrait demander un montant d'argent à la personne responsable pour compenser les conséquences néfastes de la thérapie de conversion. Si la thérapie de conversion a eu lieu depuis le 7 janvier 2022, elle pourrait également porter plainte à la police ou demander un montant d'argent au Programme d'indemnisation des victimes d'actes criminels, IVAC. Prendre soin de vous comme témoin. Si vous êtes membre des communautés LGBTQ+, être témoin d'une thérapie de conversion peut vous faire vivre différentes émotions. L'organisme Interligne offre une écoute active et un service d'aide et de renseignement adapté aux personnes LGBTQ+. Pour joindre son équipe d'intervention par téléphone ou par texto, vous pouvez composer le 1-888-505-1010 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'était « Que faire si vous êtes témoin d'une thérapie de conversion? » Un texte d'Éducalois paru le 24 mai 2024 dans le magazine Fugue.
Pourquoi les taux d'intérêt des cartes de crédit ne diminuent-ils pas avec la baisse récente du taux directeur? Un texte d'Alain Mekena, paru le 16 juillet 2024 dans Le Devoir. Les banques canadiennes suivent de près la variation du taux directeur de la Banque du Canada pour plusieurs de leurs produits financiers. Les cartes de crédit ne sont cependant que très peu touchées par la variation des taux, ou alors elles le sont beaucoup plus lentement que d'autres formes de prêts. La raison? En une phrase. Elles ne sont pas assujetties à la politique monétaire de la Banque du Canada. Elles répondent aux forces du marché bancaire canadien où, comme dans bien des secteurs économiques au pays, la concurrence est faible, ainsi qu'aux demandes des sociétés de crédit qui émettent ces cartes, Mastercard et Visa en tête. Ce qui fait que le taux d'intérêt sur les cartes de crédit est élevé et change peu. En 1978, il était d'environ 19 %. En 1991, il était de 20 %. Selon Option Consommateur, il oscille ces jours-ci entre 11 % et 29 %. Le taux courant se situe entre 19 % et 21 %. Dans la foulée de la hausse soutenue qu'a connue le taux directeur de la Banque du Canada en 2021 et en 2022, certaines banques ont haussé d'un point de pourcentage le taux d'intérêt de certaines cartes de crédit, par exemple en le faisant passer de 20,99 % à 21,99 %. Si l'on se fie à la tendance qui prévaut depuis 1978, il faudra que la Banque du Canada revienne à un taux directeur beaucoup plus bas et de façon relativement durable pour que ce taux diminue à son tour. Taux fixe, effet variable. Le taux d'intérêt des cartes de crédit n'est pas usuraire. Il faudrait qu'il soit supérieur à 35 %, mais il demeure élevé, ça, aucun doute. Il concerne surtout les gens au budget peu élevé qui doivent acheter à crédit des biens essentiels et qui peinent ensuite à acquitter leur solde mensuel. Il faut dire que la carte de crédit est une forme de prêt non garanti, considérée comme à plus haut risque par les institutions bancaires. Si vous ne pouvez pas rembourser un prêt automobile, le prêteur peut toujours récupérer votre véhicule pour se dédommager. Il peut difficilement exiger que vous lui rendiez votre repas au restaurant ou votre voyage en Europe si vous ne parvenez pas ensuite à rembourser le solde de votre carte de crédit. Le taux d'intérêt des cartes de crédit varie peu, mais il n'est pas fixe à proprement parler. Il fluctue selon le type de carte ou de transaction. Une avance de fonds aura un taux d'intérêt plus élevé que le taux imposé sur un solde impayé. Et si vous tardez à rembourser ce solde, le taux imposé pourrait lui aussi varier, à la hausse, jusqu'à 5 points. Votre historique de crédit aura aussi une incidence sur le taux d'intérêt applicable à votre carte de crédit, puisque les banques ont tendance à être plus clémentes avec leurs clients dont l'historique de remboursement est meilleur. Les banques offrent aussi parfois des cartes à faible taux d'intérêt, dont le taux est réduit temporairement, par exemple à 0,99% pour les 9 à 12 premiers mois, ou à 13,99% pour 2 ans, et ainsi de suite. Ces cartes au taux abaissé viennent souvent avec des frais annuels de quelques dizaines de dollars. Ce taux est ensuite appliqué quotidiennement. Il faut alors diviser par 365 pour en connaître la valeur exacte, et il s'applique si vous ne réglez pas à temps le solde mensuel de votre carte. Il est calculé à partir du jour de l'achat pour chaque achat qui n'est pas réglé. Les institutions bancaires à charte fédérale doivent vous informer à l'avance de toute hausse du taux d'intérêt des cartes de crédit dont elles sont émettrices, mais elles peuvent procéder à des augmentations à tout moment sans raison particulière. Il est donc important de lire les conditions d'utilisation inscrites en très petits caractères dans le document fourni avec votre carte quand elle vous est acheminée. Ce document contient tous les détails sur le taux d'intérêt et sur les conditions dans lesquelles il pourrait changer. Option consommateur rappelle que 1. Vous pouvez comparer et magasiner les cartes de crédit pour obtenir le meilleur taux et 2. Lorsque vous réglez à temps votre solde, les intérêts ne sont pas facturés. C'était « Pourquoi les taux d'intérêt des cartes de crédit ne diminuent-ils pas avec la baisse récente du taux directeur? » Un texte d'Alain McKenna paru le 16 juin 2024 dans Le Devoir.
Quels arbres causent le plus d'allergies saisonnières? Un texte de Joël Leblanc, paru le 4 avril 2022 dans Québec Science. Nos stratégies de gestion des allergies saisonnières sont basées sur des connaissances très lacunaires du potentiel allergène des différents pollens. C'est le temps d'un grand ménage. Des démangeaisons et picotements aux yeux très vifs, accompagné de sensations d'aiguilles qui percent le globe oculaire, en même temps que les yeux deviennent extrêmement enflammés et versent copieusement un épais fluide muqueux. Vient ensuite l'irritation du nez, provoquant des crises d'éternuement d'une extrême violence, auxquelles s'ajoute une sensation d'oppression de la poitrine et une difficulté à respirer. C'est en ces termes qu'en 1819, le médecin anglais John Bostock énumère pour la première fois des symptômes qui surviennent chaque année, en juin et juillet, chez un patient qu'il connaît très bien, lui-même. Le court article décrit officiellement ce qu'on appelle aujourd'hui les allergies saisonnières ou rhume des foins. Le médecin torturé explique aussi ne pas trop savoir à quoi sont dus ces malaises estivaux et liste différents traitements qu'il a essayés sans trop de succès, comme les saignées, les bains froids ou l'opium. Il présente alors l'affection comme rare et inhabituelle. Aujourd'hui, les allergies saisonnières touchent presque 20% de la population, du moins en Europe et en Amérique du Nord. Et le problème va en s'aggravant. La prévalence des allergies saisonnières semble être en constante augmentation depuis les dernières décennies, et ce, à l'échelle mondiale, indique Audrey Smargiassi, professeure à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. L'hypothèse la plus plausible, les changements climatiques. Les arbres ont une période de croissance allongée, ils produisent plus de pollen, et ce pollen a une allergénicité plus élevée. Une épidémie d'allergie, donc, qui, au-delà des désagréments physiques que vivent les gens atteints, coûte cher à la société. Les évaluations financières les plus récentes datent de 2005 et vont de 156,5 à
240 millions de dollars annuellement en frais de consultation, en achat de médicaments, en pertes dues à l'absentéisme au travail. Depuis, ces coûts ont assurément augmenté. C'est que même si l'on a compris que les pollens transportés dans l'air estival étaient les grands responsables des yeux qui piquent et des nez qui coulent, de nombreuses questions n'ont pas plus de réponses qu'au temps de John Bostock. On veut verdir les villes, et avec raison. Mais on n'a pas de données fiables sur les espèces d'arbres à privilégier pour ne pas exacerber les allergies des résidents, fait observer Alain Paquette, professeur au département des sciences biologiques de l'Université du Québec à Montréal, UQAM, et titulaire de la chaire de recherche sur la forêt urbaine. On s'entend à peu près tous sur le fait que le pollen de bouleau est l'un des principaux coupables, mais pour les autres espèces, c'est le néant ou presque. Cela devient un problème de santé publique. Il y a donc urgence à enquêter, ce à quoi son équipe s'est attelée. La chasse aux données. Les questions sont nombreuses. Le pollen de l'érable argenté est-il plus allergène que celui de l'érable de Norvège, par exemple? Y a-t-il des seuils déclencheurs différents pour chaque espèce? Des pollens inoffensifs en solo peuvent-ils agir en synergie et devenir alors irritants? Il existe bien des bases de données sur l'allergénicité des espèces d'arbres dans différents pays. Mais elles ont été créées sur des critères imprécis et de façon peu rigoureuse, signale Rita Souza Silva, qui a réalisé des études postdoctorales sur la question au laboratoire d'Alain Paquette. La conséquence? Ces bases de données se contredisent parfois. Ainsi, l'érable de Norvège est considéré comme allergène par la base de données la plus utilisée aux États-Unis, alors que les outils d'ici le jugent inoffensif. On a démontré que les risques d'allergie estimés pour une ville comme Montréal varient de 1 à 74% selon la base de données utilisée. Ces résultats sont parus dans Scientific Reports en 2021. C'est pour combler ce vide que les chercheurs de l'UQAM se sont lancés dans un projet d'envergure, dresser une carte temporelle du niveau de risque d'allergie à une échelle locale pour Montréal. Durant l'été 2021, les chercheurs ont installé 24 stations d'échantillonnage à différents endroits de la métropole. Qualifiées de passives, elles consistaient en de simples récipients cylindriques de la dimension d'un gros pot de yogourt, au fond duquel de la vaseline servait de piège à pollen. Avant cet ajout, il n'y avait qu'un seul échantillonneur de pollen sur toute l'île, propriété d'une entreprise privée. Elle vend ses données à des clients comme les chaînes météo qui affichent des indices d'allergie en été ou à des compagnies pharmaceutiques qui aiment bien savoir à quel moment elles doivent acheminer plus d'antihistaminiques dans les pharmacies pour suffire à la demande, précise Alain Paquette. Les informations obtenues grâce à cette unique station sont mieux que rien. Mais ce n'est pas suffisant, tempère le professeur. La réalité sur le terrain, c'est que l'allergénicité à un moment donné dans une ville comme Montréal peut varier selon les arrondissements ou même selon les rues. Sans compter que l'identification des pollens au microscope est très difficile. Même les plus ferrés ne peuvent pas désigner les arbres jusqu'à l'espèce. Tout au plus peuvent-ils établir le genre. Par exemple, le genre Acer, qui regroupe les érables, compte plusieurs espèces. Et entre l'arrivée du pollen de l'érable argenté et celle du pollen de l'érable de Norvège, il peut y avoir 4 semaines. On est toujours dans le flou. Visités chaque semaine pendant toute la saison, les 24 nouveaux échantillonneurs ont permis de constituer un registre du pollen aérien de Montréal. l'identification de tous ces pollens, arriver les chercheurs à leur microscope. On travaille sur un protocole de laboratoire qui permettra d'identifier les pollens par analyse génétique, mentionne Alain Paquette. Ce sera bien plus rapide et précis. Maintenant qu'on a une idée de la variation des types de pollen à Montréal, il reste à coupler le tout avec des données sur l'intensité des allergies chez les résidents, détaille Rita Souza Silva. On a mis au point une application qu'on a fournie à des dizaines de Montréalais souffrant d'allergies. Pendant toute la saison 2022, ces volontaires vont indiquer la virulence de leurs symptômes et les lieux qu'ils visitent, et l'on tentera de faire des liens avec les différentes dispersions de pollen. À la clé, d'abord, une base de données précise du niveau d'allergénicité des espèces d'arbres qui, rappelons-le, n'existe pas. On saura enfin au pollen de quels arbres les gens sont surtout sensibles, espère Rita Souza Silva. Ensuite, cette information pourra être communiquée aux responsables de l'aménagement végétal de la ville. En connaissant de façon fiable les espèces les plus problématiques, les décideurs pourront éviter de les planter pour le bien-être de tous et surtout de nos yeux rougis. Sexisme botanique. Planter de mauvaises espèces d'arbres en ville peut favoriser les allergies. Mais une autre pratique courante empire les choses, la plantation exclusive d'arbres mâles. C'est que, chez certaines espèces dites dioïques, les individus portent soit des structures reproductives mâles, les étamines productrices de pollen, soit des structures femelles, le pistil, qui capte le pollen et se transforme en fruit. Par paresse urbaine, la norme veut qu'on ne plante que des arbres mâles dans les villes pour éviter d'avoir à ramasser les graines et les fruits qui traînent au sol. Comme la proportion de mâles est exagérée, la quantité de pollen l'est aussi, comparativement à une distribution mâle-femelle plus naturelle. Une masculinisation des boisés urbains, normalisée partout en Occident, qui contribue un peu plus au calvaire des allergiques. C'était « Quels arbres causent le plus d'allergies saisonnières ?» un texte de Joël Leblanc, paru le 4 avril 2022 dans Québec Science.